Canal Académie. L'entretien de la semaine.
La conquête spatiale serait-elle devenue incontrôlable ? À quelques milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, gravitent de nouvelles constellations de satellites qui ne sont pas sans risque. Pollution lumineuse, collision de débris spatiaux ou encore perte de souveraineté pour les États, le nouvel âge spatial que nous vivons change la donne avec de nouveaux acteurs privés qui bousculent la compétition. Cette nouvelle exploitation de l'espace pose question. Dans son dernier rapport, l'Académie des sciences souligne les contre-coups négatifs de la multiplication de ces constellations de satellites. Elle propose également quelques pistes de réflexion pour limiter ces impacts. Et pour en parler, je suis en compagnie de deux membres de l'Académie des sciences. François Baccelli, mathématicien et informaticien, directeur de recherche à l'INRIA. Bonjour.
Bonjour.
Et Guy Perrin, astronome à l'Observatoire de Paris. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être au micro de Canal Académie pour présenter les conclusions de votre groupe de travail qui a produit ce rapport sur les constellations de satellites, un rapport qui étudie à la loupe les nouvelles exploitations de l'espace. Mais d'abord, pour commencer, quelques mots d'introduction sur ce qu'on appelle le nouvel âge spatial. Vous débutez ce rapport en nous expliquant que nous avons basculé dans une nouvelle ère de l'utilisation de l'espace qui s'appelle le nouvel âge spatial ou New Space en anglais. À quand remonte ce basculement, Guy Perrin ?
Alors ce basculement est assez récent, jusque, disons, dans les années 2010, ou juste avant les années 2010, le spatial était essentiellement aux mains des États. Ce qu'on entendait par spatial, c'était l'envoi de missions spatiales ou l'envoi de satellites, que ce soit les satellites scientifiques ou les satellites commerciaux, ou les satellites pour le besoin des États, mais qui étaient des satellites envoyés par les États eux-mêmes et les satellites qui étaient des grosses plateformes. Mmh. Avec le New Space, en fait, le changement, c'est à la fois l'arrivée d'acteurs totalement nouveaux, pas nécessairement des acteurs du spatial traditionnel. C'est aussi des vecteurs nouveaux, certains très importants, comme la dernière fusée de SpaceX, d'autres beaucoup plus petits pour envoyer des satellites beaucoup plus petits, ce qu'on appelle des nanosats ou des CubeSats, mais aussi des vecteurs, des fusées qui sont réutilisables. C'est les fameuses fusées de SpaceX qui ont pour conséquence, en fait, de rendre le domaine moins cher, moins onéreux. C'est une des conséquences et ça se traduit par la possibilité, en fait, de plus de tirs, d'envoyer des satellites de nouvelle génération beaucoup moins chers que les précédents et donc en plus grand nombre. Donc, multiplication des acteurs, multiplication des lancements, nouveau type de constellation, nouveau type de mission aussi. C'est ça le New Space.
Donc, avec une pluralité d'acteurs privés qui investissent cet espace, parce que l'étendue des possibles dans cet espace est considérablement élargie, il est devenu l'espace un objet de convoitise infinie. Pourquoi est-ce qu'il est devenu si attractif, François Baccelli, l'espace ?
Eh bien, parce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. C'est un point très important à considérer. Les fonctionnalités sont décrites dans le rapport. La première d'entre elles, qui est tout à fait considérable, c'est le fait d'apporter partout sur la planète le haut débit, y compris dans des zones blanches ou des zones qui sont mal couvertes, et de combiner aussi cet apport du haut débit avec des fonctions d'observation, des fonctionnalités d'observation de la Terre. Et avec un aspect très important qu'il faut prendre en compte aussi, qui est que ces réseaux de communication et d'observation peuvent fonctionner sans qu'il y ait d'infrastructures à terre dans les pays auxquels on offre ces fonctionnalités de communication et d'observation. Et donc, on en a des exemples récents dans des pays où il y a des difficultés, la guerre ou autre. Le principe étant que ces réseaux ont des possibilités de communication entre les satellites. Et donc, le satellite peut couvrir un utilisateur, communiquer lui-même avec un autre satellite et accéder après deux ou trois sauts vers ce qu'on appelle une station d'ancrage qui est située sur un autre continent ou dans un autre pays. Donc, sans ces fonctionnalités-là, qui sont complètement nouvelles, observation, communication haut débit, et qui apportent des avantages, évidemment...
positifs.
Tout à fait positifs dans un contexte de réflexion géostratégique, mais aussi, on en a des exemples assez concrets, porter le haut débit dans un hôpital en Guyane, qui est un hôpital isolé. C'est ce qu'on peut faire avec des constellations de ce type, et ce qui est fait, alors qu'il serait extrêmement difficile de couvrir en haut débit avec des stations de base terrestres des régions comme ceci. Le rapport essaie de présenter tous ces aspects-là, avec un aspect peut-être encore plus global, qui est la constitution d'une forme d'Internet spatial, qui serait l'interconnexion de toutes ces constellations et qui compléterait l'Internet terrestre avec des fonctions de routage, des fonctions d'observation, tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités avec des réseaux qui ont des propriétés de résilience et de résistance à divers types d'attaques, on va dire, qui sont beaucoup plus grandes que ce que les réseaux terrestres. Donc, on ne peut pas négliger ces apports potentiels, et comme on l'expliquera ultérieurement, il y a des questions de régulation. Les aspects négatifs que vous avez soulignés sont absolument centraux. Mais le principe, s'il y avait une meilleure régulation, apporte des tas de possibilités nouvelles qui doivent être considérées aussi et qui le sont par les États. Et vous savez que l'Europe a une réflexion sur ce sujet, veut lancer une petite constellation qui lui donnerait des moyens de communiquer entre États européens de manière sécurisée, une constellation qui aurait ses propriétés de résilience.
C'est la constellation Iris.
Iris, quoi. Ouais,
on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais pour rester sur le domaine des télécommunications, domaine qui intéresse particulièrement les acteurs privés, vous avez cité tout à l'heure Guy Perrin Starlink, qui est sans doute le plus célèbre de ces acteurs privés. La firme est devenue incontournable dans le domaine des télécommunications. C'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk qui est derrière ce fournisseur d'accès à Internet par satellite, pour proposer donc une couverture Internet universelle. Il a commencé à déployer des milliers de satellites dans l'espace à basse altitude. La constellation Starlink est toujours en cours de déploiement aujourd'hui et pose de nombreuses questions. Starlink, c'est principalement cet acteur qui est venu rebattre les cartes du jeu.
Non, c'est pas le seul acteur, mais c'est un acteur
premier.
Emblématique. Je ne suis pas certain que ce soit le premier, en fait. Mais c'est un acteur emblématique parce qu'il concentre tous les aspects du New Space. Il est à la fois lanceur, constructeur de satellites et opérateur de réseaux de télécommunications. Sa position, elle est totalement unique, en fait. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est en capacité de lancer un très grand nombre de satellites, d'être opérationnel, de pouvoir commencer à tester la viabilité financière, en fait, de ce type de constellation, et qu'il peut se permettre d'offrir des services sur lesquels il communique. On se rappelle, par exemple, ce qu'il avait fait au déclenchement de la guerre en Ukraine pour apporter des moyens de télécommunication et d'Internet sur le terrain, alors que les infrastructures ukrainiennes étaient endommagées par les attaques russes, par exemple. Voilà.
Starlink est une firme américaine. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui dominent ce marché-là, François Bachelet.
Comme le suggérait dans sa réponse Guy tout à l'heure, Starlink, évidemment, est emblématique actuellement. Et on peut dire que c'est le seul groupe industriel qui soit à peu près à l'équilibre du point de vue financier dans ce contexte d'Internet haut débit. Mais il y a un historique ancien. Il y a des constellations comme Iridium, OneWeb, il y avait O3B aussi, c'était The Other 3 Billion. L'idée de Greg Weiler était d'offrir à l'Internet à ceux qui ne l'avaient pas partout sur la planète. Donc, alors il y a des constellations comme ça qui étaient venues sans doute un peu tôt. Comme l'a dit Guy, l'aspect vraiment novateur du côté de Starlink, c'est véritablement d'avoir ce lanceur réutilisable et d'avoir aussi complètement changé la donne sur la constitution et la conception des satellites eux-mêmes, qui sont des objets relativement peu coûteux, contrairement aux plateformes dont on parlait tout à l'heure, géostationnaires, qui sont faites avec certaines fois des matériaux qui sont de grand commerce, qui ne sont pas du tout de l'électronique, par exemple, faite pour l'espace lointain, comme tout ce qui est fait pour le géostationnaire. Donc, des idées complètement nouvelles. Donc, il y a des sociétés anciennes et puis des projets. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Il y a, par exemple, un projet de Amazon qui s'appelle Kuiper, qui est aussi fondé sur un très, très grand nombre de satellites. Il y a des projets chinois. Je parle uniquement des constellations qui visent le haut débit. Mmh. Mais quand on prend aussi les constellations d'observation de la Terre, il y a tout un ensemble de secteurs complètement nouveaux pour observer les activités anthropiques, pour observer l'état de sécheresse, la production de gaz à effet de serre. Et donc, ce sont des dizaines et des dizaines de petites constellations de satellites qui sont lancées actuellement et qui, contrairement aux constellations pour le haut débit, ne nécessitent pas une couverture continue de chaque lieu. Donc, vous pouvez observer, par exemple, la production de gaz à effet de serre dans une région. Et un premier satellite passe et puis il y en a un qui passe 2 heures après. Vous voyez, ça n'est pas du tout comme pour les communications où il faut que dès qu'un satellite a défilé, il est passé, il faut qu'il y en ait un deuxième pour que la communication reste continue. Mais par contre, il y a des dizaines et des dizaines de projets de petites constellations et qui sont extrêmement utiles à la communauté scientifique et aux décisionnaires hein, pour comprendre ce qui se passe du point de vue agriculture.
Pour aussi mieux comprendre le réchauffement climatique.
Réchauffement climatique. Hein. Donc tout ceci crée une augmentation de la population du nombre de satellites en orbite. Alors, il y a aussi d'autres constellations qui ont un but un peu différent, qui sont les constellations pour la géolocalisation, type GPS, Galileo.
Qui est un projet européen.
Galileo est un projet européen, oui.
L'Europe, concernant ce type de constellation, est-ce qu'elle est à la traîne ou alors elle porte aussi un grand nombre de projets comme les Chinois, les Américains
Alors,
où est-ce qu'elle se place, l'Europe, dans tout ça?
Le nombre de jeunes pousses, de sociétés qui font partie du New Space est centré essentiellement aux États-Unis. Hein. Donc, les initiatives viennent technologiques, scientifiques et industrielles avec des idées complètement nouvelles, comme les lanceurs réutilisables.
Bon,
donc, il y a une impulsion très importante du côté US. Mais l'Europe et la France, évidemment, jouent un rôle tout à fait important avec le projet IRIS Square qui est en cours de lancement. La différence principale, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est on a des règles et des principes beaucoup plus
stricts
en Europe. La loi qui s'applique, par exemple, pour les lancements, c'est la loi française pour tout ce qui est européen, puisque les lancements se font de courroux. Un aspect clé, par exemple, c'est les principes de retour des satellites, une fois qu'ils sont en fin de vie.
On en parlera.
Voilà. Et donc, suivant les continents, suivant les pays, on a des règles plus ou moins contraignantes.
Et qui diffèrent.
Mais l'Europe est tout à fait active. On liste tout un ensemble de jeunes pousses avec des idées de constellations ayant des fonctionnalités qui sont des jeunes pousses européennes. Et puis, il y a un projet aussi de lanceurs réutilisable en cours de développement. Donc l'Europe est active.
Elle est là, elle est présente. On l'a bien compris, le New Space offre des perspectives économiques intéressantes pour les acteurs qui se lancent. Aujourd'hui, presque tout le monde veut lancer sa constellation de satellites. On parle d'une croissance exponentielle. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de satellites sont mis en orbite chaque année? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir une idée de cette progression des constellations? Il me semble que la progression est assez impressionnante depuis quelques années, Guy Perrin.
Actuellement, c'est une centaine à plus d'une centaine de lancements, essentiellement par Starlink aujourd'hui. Il y a d'autres acteurs. L'Europe lance un petit peu en ce moment, et plus beaucoup, mais va revenir sur ce terrain avec l'arrivée d'Ariane 6. Mais vous avez d'autres pays qui lancent des satellites et des missions spatiales qui n'étaient pas des acteurs du spatial jusqu'à présent. Donc la croissance est très importante et elle est essentiellement due aujourd'hui à SpaceX et aux capacités de lancement de SpaceX. Aujourd'hui, on a à peu près 14 000 satellites en orbite, en fait. Et les prévisions de croissance, c'est plusieurs dizaines de milliers de satellites dans les années à venir. Donc ça va très très vite, ça va potentiellement très très vite.
Peut-être trop vite. J'avais vu que le nombre placé de satellites en orbite était stable entre 1975 et 2013, on était à peu près à 100 par an. En 2022, on était à plus de 2200.
Ça va très vite.
C'est énorme. Et donc la croissance des constellations n'est pas prête de s'arrêter à tel point qu'on parle maintenant d'un encombrement de l'espace. La multiplication des satellites n'est pas sans conséquence. Vous dressez dans ce rapport un certain nombre d'impacts, disons assez négatifs, de cette multiplication qui se fait dans un cadre assez peu régulé. Un premier écueil de tous ces satellites placés en orbite basse, c'est qu'ils finissent par créer une sorte de pollution lumineuse qui dégrade l'accès au ciel nocturne, ce qui finit par être une menace en fait, pour le travail des astronomes. Alors, je m'adresse à vous, Guy Perrin, qui êtes astronome. En quoi cette pollution lumineuse est une menace pour les astronomes, pour le travail des astronomes?
En fait, il y a deux types de pollution qui dépendent des longueurs d'onde d'observation, en fait, ou des fréquences d'observation si on est en radio. Il y a une première pollution qui est due au fait que ces satellites en orbite basse réfléchissent la lumière solaire et renvoient la lumière solaire vers le sol. Et l'effet est important juste après le coucher de soleil ou juste avant le lever du soleil. Ça crée des sources lumineuses dans le ciel qui sont des sources lumineuses artificielles qui sont détectables, et d'autant plus détectables qu'elles sont brillantes, par les observatoires astronomiques. Et les observatoires astronomiques modernes, c'est des observatoires qui sont extrêmement efficaces, extrêmement sensibles. Et donc la moindre source lumineuse, pour peu qu'elle soit brillante, voire faiblement brillante, est détectée. Et une des caractéristiques de l'astronomie moderne contemporaine, c'est qu'une partie des instruments sont destinés à des observations au grand champ pour faire des statistiques, pour détecter par exemple ou caractériser la matière sombre dans l'univers. Et ayant un grand champ, la probabilité de détecter un satellite ou des satellites pendant une pause qui peut durer de plusieurs minutes à plusieurs heures ou une fraction d'heure, cette probabilité devient très très forte. On estime par exemple que pour un observatoire en cours de construction qui verra sa première lumière cette année, qui s'appelle le Vera Rubin Observatory, auquel la France participe, qui est au Chili, eh bien à peu près 30% des observations seront affectées par des traces de satellites lorsque Starlink aura mis en orbite 42 000 satellites, par exemple. 30%, c'est une part considérable. Alors, a priori, tout ne sera pas jeté, mais une part sera jetée, sera irrécupérable. Et surtout, ce type de télescope, en fait, un des objectifs de ce type de télescope, c'est la détection d'événements transitoires. Donc, des étoiles qui explosent ou d'autres types d'événements transitoires qui, par définition, ne se reproduisent pas. Donc, si au même moment, un satellite passe près de la source, de la source projetée sur le ciel, c'est terminé. Voilà, on ne verra pas cet événement. Et donc, c'est difficile de prédire quelle sera la quantité d'informations perdues, mais on sait qu'elle ne sera pas nulle et qu'elle peut être comparable, en fait, aux quantités de nuits perdues à cause du mauvais temps.
Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces traces? Les solutions existent, François Bacelli?
Oui, des solutions existent et des solutions vont sans doute être développées. Alors, il y a par exemple, pour la partie optique, Guy va reparler de la partie radioastronomie ultérieurement, mais pour la partie optique, par exemple, il y a des gentlemen agreements avec Starlink pour noircir les satellites. Et il y aurait d'autres techniques qui seraient envisageables dans le futur. Mais pour l'instant, c'est un accord de principe qui n'engage que Starlink. Et si Kuiper, Amazon lançait de nouveau dans les années comme c'est prévu des dizaines de milliers de satellites, est-ce qu'il y aura le même accord? Est-ce qu'il y aura jurisprudence? Donc il n'y a pas de régulation qui impose à ceux qui lancent ces constellations de mesurer l'impact qu'ils ont sur l'astronomie optique, en l'occurrence. Oui, c'est envisageable. Et donc, c'est un des concepts qu'on développe dans les recommandations. C'est d'avoir quelque chose qui préserve à la fois les aspects positifs et qui contrôle les aspects négatifs en introduisant une régulation. Il y a des efforts dans ce sens à l'ONU, dont Guy parlera tout à l'heure, par exemple sur les aspects astronomie et radioastronomie. Donc, des choses sont envisageables, mais pour l'instant, elles sont insuffisantes et ne sont pas contraignantes. Il n'y a pas de législation qui les impose.
Mais ces acteurs, ces firmes privées comme Starlink, Amazon, etc., elles se sentent concernées? Est-ce qu'elles écoutent toutes ces recommandations? Ou alors ça leur passe complètement au-dessus de la tête, Guy Perrin?
En fait, c'est un des espoirs des astronomes, c'est que ces gens-là soient conscients, en fait, des problèmes qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent générer, que ça leur pose un problème de réputation, potentiellement, et que du coup, ils soient enclins à agir, puisque aucune contrainte n'existe aujourd'hui pour les obliger à agir. Donc, dans l'exemple que donnait François, Starlink a fait une nouvelle génération de satellites qui sont beaucoup moins brillants que les précédents, et se plie quelque part à un souhait de la communauté astronomique internationale qui a été émis par l'Union astronomique internationale, qui a créé un centre pour la protection des cieux. Et un souhait qui a été clairement dit, c'est que les satellites ne dépassent pas un certain seuil de brillance. Alors, pour les spécialistes, c'est la magnitude 7 dans le domaine visible, et ça a été atteint, si vous voulez. Donc il y a ce souci de Starlink, pour l'instant, au moins, de respecter cette volonté, de faire ce qu'il faut pour être en mesure de la respecter. Mais il y a d'autres constellations. D'abord, il y en a une, par exemple, alors pour l'instant, ce n'est pas une constellation, c'est un satellite qui a été envoyé, qui est une antenne de 64 mètres carrés. Et une antenne de 64 mètres carrés, ça a une efficacité folle pour réfléchir la lumière du soleil. Et du coup, ça a créé la sixième source la plus brillante du ciel. Hein, ce qui, pour nous, est un problème absolument dramatique. Parce qu'évidemment, ce satellite est un prototype et il est destiné, en fait, à être reproduit pour faire une constellation. L'idée, c'est qu'on puisse, avec un terminal, c'est-à-dire un téléphone sans fil, se connecter directement au satellite pour faire du haut débit. Donc, évidemment, pour que ça marche, il faut que le satellite puisse capter le signal de manière efficace. Et donc, il faut qu'il soit de plus grande taille. Voilà. Donc, ça, c'est le problème dans le domaine optique, dont on espère que tout le monde, dans un sens de coopération, va arriver à réguler ce problème, ou en tout cas à faire en sorte qu'il ne devienne pas un problème insurmontable. Il y a aussi la partie radio.
Alors,
la partie radio, c'est une autre difficulté. C'est que la partie radio, ce n'est pas un problème de réflexion de la lumière solaire par les antennes, qui est un problème tant qu'il y a de la lumière à réfléchir. Et donc, en plein milieu de la nuit, a priori, l'effet est moins grave. Pour la radio, ce n'est pas ça. C'est que ce sont des émetteurs radio qui sont partout répartis sur la sphère céleste et qui émettent donc aussi au-dessus des observatoires radio. Observatoires radio qui, en général, en tout cas pour les plus grands d'entre eux, notamment le Square Kilometer Array qu'on est en train de construire en Australie et en Afrique du Sud, sont dans des sanctuaires radio, c'est-à-dire des endroits de la planète où on n'a pas le droit de se balader avec un téléphone portable et où il n'y a pas de réseau de communication classique. Donc c'est des endroits qui sont protégés contre les émissions radio. Et évidemment, si vous avez une constellation qui, elle, passe par le ciel et illumine l'observatoire, on n'est plus dans un sanctuaire radio. C'est l'équivalent de sources laser puissantes, en fait, qui se baladeraient au-dessus d'un observatoire optique, si vous voulez. Et donc ça, c'est l'autre difficulté qui nécessite aussi une régulation et aussi une coopération de ces opérateurs de satellites, puisqu'il faut qu'au moment où on passe au-dessus de ces observatoires, eh bien, on puisse éteindre les télécommunications de manière temporelle pour les reprendre plus tard. Et ça nécessite bien sûr une organisation. Et ce n'est pas sans coût pour ces opérateurs de satellites. Ça induit une complexité très importante pour les opérateurs. Donc il faut absolument maintenir cette collaboration, cette coopération avec ces opérateurs pour que ça puisse rester sous contrôle.
Donc, pollution lumineuse et radio, ça, c'est le premier impact négatif de ces constellations de satellites. Un deuxième écueil induit par ces formations de constellations, c'est la formation de débris spatiaux. Est-ce que, alors, premièrement, on peut peut-être expliquer comment se forme un débris spatial et pourquoi un débris, finalement, dans l'espace poserait problème, François Bacelli?
Oui, alors je vais répondre d'abord à la question sur la formation des débris. Il y a tout un ensemble de causes, la première étant celle des collisions. Vous pouvez avoir collision, il y a un exemple très célèbre de collision Cosmos-Iridium, donc vous trouverez sur le web, où on voit une animation de la collision entre deux satellites, dont j'ai parlé d'Iridium tout à l'heure, donc c'est une des constellations. Alors, le choc entre deux satellites, ces satellites sont en révolution extrêmement rapide sur leur orbite, et quand ils entrent en collision, ça crée une gerbe de débris tout à fait considérable. Une autre cause est simplement celle, disons, des faits de guerre, on va dire. Il y a eu trois exemples de satellites détruits pour montrer qu'on pouvait détruire un satellite en orbite. Donc, il y a eu un essai US, un essai russe et puis un essai chinois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, avec une arme conventionnelle, vous détruisez le satellite et ça crée évidemment de nouveau une gerbe d'objets. Alors, on se trouve dans une situation extrêmement préoccupante du point de vue des débris. Et ça, je crois que c'est une inquiétude partagée par beaucoup de personnes. Donc, plusieurs concepts très importants. Alors, le premier, c'est celui d'éviter les collisions. Il y a des systèmes de suivi des satellites et des débris qui sont contrôlés par des systèmes informatiques extrêmement complexes, basés sur des observations, qui essaient de prévoir que tel satellite pourrait entrer en collision avec tel débris ou tel autre satellite, et d'avertir les personnes concernées, de manière à ce qu'ils mettent en œuvre les moteurs qui sont à bord pour éviter la collision.
D'accord.
Vous voyez la complexité de la chose. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de satellites. Les débris sont catalogués pour ceux de plus de 10 cm. On a un nombre de débris tout à fait considérable.
Est-ce qu'on peut observer seulement les débris qui mesurent plus de 10 cm, c'est bien ça?
Il y a une loi de puissance intéressante pour la taille des débris. Il y a ceux qui sont catalogués. Un choc avec un débris qui fait une dizaine de centimètres, c'est quelque chose qui est tout à fait considérable. Et donc, un choc entre un satellite Et un débris de cette taille peut avoir des conséquences dramatiques. Et donc ceux-là sont catalogués, suivis, et donc on peut prévoir par des systèmes informatiques adaptés et des observations qu'il y a une crainte que dans 2 jours, tel objet et tel autre en orbite, pouvant être un satellite et un débris ou 2 satellites, vont entrer en collision. Alors s'il y a une partie active, un des satellites est contrôlable, alors on peut éviter la collision. Et donc, c'est très lié à ce que disait Guy tout à l'heure. Donc, les satellites contrôlables vont changer leur orbite de manière fréquente pour éviter des collisions. Et donc, on ne peut pas avoir des éphémérides de cet ensemble considérable de satellites parce que les orbites sont changées de manière assez, assez fréquente. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a quand même des collisions. Il y a un nombre considérable de débris en orbite et une crainte qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui est quelque chose qui doit vraiment être expliqué de manière précise, c'est la possibilité, si on densifiait trop le nombre de satellites en orbite basse, d'une réaction en chaîne. Vous voyez, 2 premiers satellites entrent en collision, ça crée des gerbes d'objets qui entrent en collision avec d'autres satellites. Et donc, ce syndrome de Kessler pourrait être présent à terme si on ne réfléchissait pas et qu'on lançait ces constellations de manière irréfléchie, on va dire, sans comprendre ce qui peut se passer.
Le pire des scénarios avec ce syndrome Kessler, c'est que l'espace finirait par devenir inexploitable avec tous ces débris qui graviteraient en fait autour de la Terre. Est-ce qu'on peut imaginer un tel scénario où on ne pourrait plus aller dans l'espace à cause de tous ces débris formés autour de la Terre ?
Alors, c'est une très belle question scientifique et une de nos recommandations. Et on s'est rendu compte, alors on s'est plongé les uns et les autres dans la littérature, essayer de voir, donc il y a des modèles mathématiques, c'est de la dynamique, donc c'est extrêmement complexe, hein. Il y a de la mécanique statistique, des dynamiques de type Kepler, il faut un modèle mécanique pour la fragmentation. Et donc, comprendre ça, je pense que dans la situation actuelle, il y a des simulations faites par la NASA, il y a des études au CNES qui sont tout à fait considérables là-dessus, mais on ne sait pas, je crois, à l'heure actuelle, à partir de quelle densité, par exemple, de satellites en orbite basse, on a une chance de voir ce phénomène, ce syndrome se déclencher. Certains prétendent que dans les altitudes, vous parliez de milliers de kilomètres tout à l'heure, il faut savoir que les satellites en orbite basse, ça commence à 350 kilomètres à peu près. Hein, donc c'est,
ouais, jusqu'à 2000 à peu près.
Voilà, c'est ça. Et donc, dans ce domaine pour les altitudes, à partir de 350 jusqu'à, oui, on va dire 2000 kilomètres, on voit quand même une augmentation de ces débris et certains analystes pensent que cette réaction en chaîne est déjà commencée. Donc il faut la définir de manière précise aussi, mais vous parliez de croissance exponentielle, et justement c'est ça. Une des définitions relativement rigoureuses de ce phénomène, c'est quand le nombre de débris, à partir d'une densité initiale d'objets, par exemple de satellites en orbite basse, va croître de manière exponentielle dans le temps. Donc ce n'est pas une réaction en chaîne comme une explosion instantanée, mais une croissance exponentielle du nombre de débris. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait préoccupant et qui est du ressort de réflexion académique. Il conviendrait d'avoir une analyse beaucoup plus fine de ces dangers, de quantifier. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait sans doute une forme de capacité de l'environnement terrestre à absorber ou à accepter des satellites en orbite basse, au-delà de laquelle, sauf règles très contraignantes sur la manœuvrabilité des satellites, on a ce danger. Et donc, il faut beaucoup plus de travail pour répondre à la question que vous posez. Mais je crois que la réponse, c'est qu'on ne sait pas actuellement.
Est-ce qu'il y a déjà eu des collisions très graves qui sont arrivées dans le passé, Guy Perrin ?
Il y en a une, celle qu'a mentionnée François, entre un satellite Irium et puis un satellite Cosmos. Il y a eu aussi des évitements qui ont été nécessaires pour la Station spatiale internationale. Il y a même eu un impact, je crois, pour ça devait être la Station spatiale internationale ou une navette, je ne me souviens plus. Donc ce n'est pas des événements improbables, hein. C'est des événements qui sont vraiment probables. Et évidemment, la probabilité d'occurrence de ces événements, alors d'abord, disons que c'est moins grave si c'est 2 satellites sans personne à bord que si c'est la Station spatiale internationale avec des astronautes dont la vie est immédiatement mise en danger. Hein, ce n'est pas la même chose. Donc, mais c'est tout à fait probable aujourd'hui et la probabilité, bien sûr, augmente. Alors, je ne sais pas si elle augmente exponentiellement, mais dans le langage commun, elle augmente exponentiellement avec le nombre de lancements.
Ce qu'il y a, c'est que ça va nécessairement conduire les acteurs du domaine à réfléchir au problème, et ils y réfléchissent certainement. Quand on pense à une constellation de satellites pour les télécommunications, par exemple, ou pour l'Internet, le coût, sans doute, se chiffre en milliards, avec un S ou sans S, et sur le long terme, en milliards, avec un S, sans doute. Et donc, un acteur du spatial aura du mal à trouver des financements pour lancer une constellation si il y a un risque que le syndrome de Kessler arrive, puisque à ce moment-là, tout l'investissement est perdu. Donc, de toute façon, il y aura nécessité de discuter et, de mon point de vue, à réguler à un moment donné, puisqu'on y sera collectivement contraint, en fait.
Il manque un gendarme universel aujourd'hui ?
Ah oui, ah oui, oui.
François Vatchelli ?
Oui, il y a un aspect très important là. L'organisme international qui s'occupe de la régulation des satellites de communication, c'est l'Union internationale des télécommunications, qui a des règles extrêmement précises et anciennes sur les géostationnaires. Donc les géostationnaires, ils doivent avoir des positions qui sont très bien définies. Et donc vous installez votre satellite et puis vous devez avoir une règle en fin de vie pour que le satellite quitte son poste et qu'il y ait des procédures de fin de vie. L'Union internationale des télécommunications est aussi en charge des constellations pour les orbites basses et moyennes. Mais comme ce sont des choses, on l'a dit tout à l'heure, très récentes, la règle qui est appliquée pour l'attribution des ressources orbitales et fréquentielles, c'est une règle du premier arrivé, premier servi. Si quelqu'un a les moyens, il propose d'installer 20 000 satellites en orbite basse, il va voir cette Union internationale des télécommunications, se met sur les rangs. Et comme cette notion de capacité dont on parlait tout à l'heure n'est pas définie, il n'y a pas de moyen légal d'objecter que ces choses ne sont pas possibles ou devraient être réfléchies ou limitées. Et donc, pour l'instant, il y a des projets qui sont soumis, qui concernent des dizaines de milliers de satellites, et puis tout ceci passe. Donc il y a à la fois un manque de principes pour organiser la régulation, et un manque effectif de régulation. Et là, l'analogie qu'on nous a donnée, c'est un peu comme l'Antarctique ou la haute mer, si vous voulez. Donc, comment contraindre certains pays à appliquer des règles, même si elles étaient définies, et ce n'est pas toujours le cas, qui mènent à une évolution qui soit durable pour ce domaine. Alors, une réponse facile, c'est arrêtons tout, mais d'abord, on n'a pas le moyen d'arrêter tout puisque les acteurs ne sont pas du tout sous notre contrôle. Donc, le seul moyen qu'on peut envisager, c'est d'énoncer des principes vertueux qui sont tels que si tout le monde les suivait, on aurait ce caractère soutenable ou durable et tous les aspects positifs de ces constellations, mais où certains excès seraient, contrôlés ou interdits. Mais c'est extrêmement difficile. Et les principes qui ont été mis en œuvre par l'astronomie à travers l'ONU ou à travers les débris, donc voilà, les personnes s'intéressant à ces sujets ont créé une norme ISO, auquel les personnes lançant des constellations ou des satellites peuvent adhérer ou non. Et vous voyez, c'est un principe vertueux, donc vous annoncez que vous respectez la norme ISO tel numéro, et donc ne pas suivre cette norme dans un contexte commercial peut être vu comme un moins. Et donc cette norme va conduire, pour ceux qui la respectent, à un contrôle du nombre des débris à terme, et donc à minimiser les chances qu'un effet, que le syndrome de Kessler ait lieu. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'efforts dans ce sens, mais c'est extrêmement difficile parce que il n'y a pas de juge de paix, il n'y a pas d'autorité qui ait ni les moyens, ni certaines fois la réflexion et les bases scientifiques pour agir.
Il en faudrait une autorité, comme vous décrivez, selon vous, Guy Perrin ?
Il en faudrait une, oui. Enfin, en tout cas, il faudrait au minimum un consensus entre États pour leur propre lancement et pour ceux qu'ils contrôlent depuis leur sol. C'est ce consensus qui est difficile à bâtir. Alors, il y a quand même des espoirs. Au sein de l'ONU, il y a un comité qui s'appelle le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace exo-atmosphérique. Donc tous les États sont représentés. Et ce comité vient de décider très récemment, on a début 2024, d'inscrire à l'ordre du jour pendant 5 ans la question justement des constellations de satellites. Ça paraît insuffisant, mais c'est déjà un premier pas parce que ça veut dire que vous avez une enceinte internationale au sein de laquelle on discute de ces questions et où sont représentés les différents acteurs. En fait, vous avez les États, vous avez, alors, pour nous astronomes, il y a l'Union astronomique internationale, il y a l'Observatoire austral-européen, il y a le Square Kilometer Array qui sont représentés et qui interviennent, d'un point de vue technique, évidemment. Les industriels du domaine sont aussi représentés, ne serait-ce que via leurs États qui sont présents. C'est le cas pour les industriels français, par exemple, au travers de nos différents ministères, via le CNES. Donc, il y a un lieu de débat, il y a un lieu de forum. La difficulté, c'est que les enceintes onusiennes peuvent toujours être prises en otage par des considérations qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet qui est débattu. Donc, c'est de la diplomatie, ça ne va pas forcément très vite, mais l'important, c'est que le mouvement soit lancé et que ça progresse. Donc ça, c'est une première façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire qui est que, tu parlais du traité de l'Antarctique, par exemple, qui est que des pays s'agrègent, conviennent de règles qui ne sont pas des règles onusiennes au sens où elles s'appliqueraient à tous. Mais finalement, au bout d'un moment, tout le monde fait un peu la même chose, tout le monde adhère à ces règles, ça devient un traité, puis le traité fait foi ou fait loi. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire. C'est en train de se produire, on ne sait pas quel sera le résultat final, mais avec les accords Artemis, qui sont signés par des États sous l'auspice des États-Unis pour justement les activités à venir sur la Lune. Peut-être que ces accords Artemis finiront par être un cadre global avec des règles que respecteront tous les acteurs de la conquête spatiale ou en tout cas de la présence sur la Lune. Donc on peut imaginer que peut-être, je dis bien peut-être, c'est ce qui se produira. Et comme je le disais tout à l'heure, les investisseurs ont intérêt aussi quelque part à un moment donné que ça reste sous contrôle, sans quoi plus personne n'aura confiance pour investir des sommes très importantes dans ces constellations. Donc c'est pas complètement perdu. Voilà. Il y a de l'espoir, mais il faut travailler dans ce sens-là. Il faut faire les études qui sont nécessaires pour instruire. Voilà, parce que ça, c'est indispensable, sinon vous n'êtes pas crédible. Il faut encourager donc ces acteurs à s'organiser ensemble pour y parvenir.
À vous entendre, vous restez optimiste malgré tout. Ce sera ma dernière question.
Oui, la chose est assez complexe. Hein, donc, il faut peut-être revenir aussi sur les enjeux de souveraineté et les présenter de manière étendue. Comme vous le savez, par exemple, pour les communications au débit, dans un pays donné, vous avez un législateur qui attribue les fréquences. Vous avez des règles. Si vous offrez le haut débit dans un pays, vous devez avoir le cœur de réseau qui est abrité dans ce pays. Vous devez avoir aussi des règles de confidentialité, que les conversations ne peuvent pas être mises sur la place publique, etc. Un réseau basé sur une constellation de satellites offre le même service, n'est contraint par aucune des trois règles que je viens d'énoncer. Et donc, la souveraineté, c'est ça aussi. C'est qui était le privilège des États européens, en tout cas, d'avoir une certaine maîtrise de l'utilisation des données qui circulent sur les réseaux, de l'utilisation des fréquences. Ceci est complètement battu en brèche. Donc, oui, il faut rester optimiste, mais il faut aussi être conscient des enjeux et de ce qui est en train de se passer sur ces questions-là, dans la mesure où une partie de ce qui était garanti jusqu'à maintenant, de fait, ne l'est plus. Donc, oui, il faut rester actif, considérer les aspects négatifs et considérer aussi tout ce qui se passe et sur lequel on pourrait à terme, si on n'agit pas, avoir une perte de souveraineté ou même une forme de dépendance qui serait tout à fait regrettable. Donc il faut agir, et ces questions de souveraineté, c'est une des dimensions du problème. Il ne faut pas être spectateur de ça, il faut comprendre ce qui se passe et agir.
Allez-y,
Guy. Oui, pour moi, il faut être, je suis complètement d'accord avec toi, évidemment, pour moi, il faut être vigilant, actif, et si on est vigilant et actif, alors on peut se permettre d'être optimiste, voilà.
Excellent.
Un grand merci à vous deux, François Bacelli et Guy Perrin, pour toutes ces explications. Pour avoir plus de détails, nous invitons les auditeurs à découvrir le rapport de l'Académie des sciences auquel vous avez participé tous les deux, sur les constellations de satellites. Le rapport est disponible sur le site de l'Académie des sciences et nous mettrons tous les liens utiles sur la page de notre site. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Canal, Académie.